Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 encore. Avec Jésus dans l'intimité. Le soir avant sa crucifixion, son départ est connu maintenant de ses disciples qui se troublent en l'entendant. Verset 1 du chapitre 14, nous lisons jusqu'au verset 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais pour vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où pratiquement toute la communauté scientifique se mettait à l'œuvre dans la cause de la guerre, Albert Einstein a dit « La perfection des moyens et la confusion des buts me semble être la caractéristique de notre âge. » La perfection des moyens, tellement sophistiqués, de la science, les moyens, les chemins pour arriver au but sont tellement perfectionnés aujourd'hui dans notre société. Mais les gens n'ont aucune idée où ils vont. Rien n'est plus vrai des gens autour de nous. Un jour, un théologien bien connu, auteur de douzaines de livres, il raconte qu'il était dans une réunion d'une école qui se présentait aux parents. Lui et sa femme voulaient savoir s'il fallait envoyer leur enfant à cette école. Ça devait être une école privée, je pense. Et le directeur a donné une présentation splendide et impressionnante sur tous les moyens de cette école, bien ficelés, bien réfléchis, bien équipés pour éduquer les enfants. Et à la fin de sa présentation, le directeur a dit « Est-ce qu'il y a des questions ?» Et il y avait un silence complet devant cette impressionnante panoplie de moyens mis en place. Et le théologien a levé la main et il a dit « J'apprécie beaucoup tous les moyens dont vous avez parlé, que vous mettez en œuvre, mais quel est votre but? Quelle sorte d'enfant est-ce que vous visez produire par tout cela? » Et le directeur était pris complètement au dépourvu et il a dit à tout le monde, « Je ne sais pas. » « J'ai l'impression parfois que notre société d'aujourd'hui est comme un groupe de jeunes qui se met dans un canoë, dans une rivière, dans un kayak et ils sont vents pour avoir un bon moment et le chemin est formidable. L'eau, très rapidement, ils sautent. Ils esquivent les rochers et pendant 2 heures, tout le chemin est formidable. Mais le seul problème, c'est que ce chemin, alors leur insu, mène à des chutes vertigineuses. Une descente de 80 mètres verticale chute dans les rochers. Mais le chemin était marrant. Le chemin était marrant. Mais où allez-vous? Où devez-vous arriver par cette vie qui est un chemin? Quelle était la destination qui devait être le bon port? Et c'est de cela que Jésus nous parle. Nous allons aujourd'hui, parler d'un des versets les plus connus de la Bible, au moins des chrétiens évangéliques, où Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais avant de parler de Jésus en tant que chemin, il faut s'arrêter et dire: Où étions-nous faits pour arriver? Et Jésus le dit deux fois dans ces versets. D'abord, il parle dans le verset 1. Verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Dans un premier temps, il parle comme si c'est un endroit, et nous avons parlé de tout cela, mais Thomas le prend trop littéralement, et il dit, et Thomas pense vraiment à un endroit, c'est-à-dire de manière à ce que le chemin, si on a un GPS, c'est bon. Si on a une carte, c'est bon. C'est comme ça que Thomas pense. Mais il dit ceci: Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment nous saurions le chemin? Si tu nous disais le point géographique, bah, bien sûr, on saurait le chemin, on utiliserait une carte. Mais Jésus, donc, maintenant, va reparler de la destination, mais pas en tant qu'endroit, parce que Thomas le prend trop littéralement. Et dans le verset 6, vous voyez qu'il dit: Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père. Au Père. Vous étiez fait pour arriver finalement et poser vos bagages dans la présence du Père. Maintenant, Jésus ne dit pas: Je suis le chemin à Dieu. Vous avez vu? Il ne dit pas: Je suis le chemin au Père. C'est-à-dire, vous deviez arriver à connaître le Créateur, pas en tant que Dieu, mais en tant que votre Père réconcilié, auquel vous êtes revenu comme un fils prodigue, qui vous accueille comme son enfant pour toujours, qui vous dit: Posez les bagages maintenant, et vous êtes fait pour être dans sa présence où il n'y a aucune distance, comme maintenant, mais où sa gloire est manifeste, son amour est palpable, et vous y êtes pour toujours. Jusqu'à ce que vous trouviez dans le Dieu éternel votre Père, que vous savez qu'il vous aime et que vous êtes son enfant chéri, votre cœur ne peut avoir aucun repos. Aucun repos ultime. Et c'est là que vous devez arriver. Et ça, c'est la bonne nouvelle, que ce Père vous envoie son Fils pour que vous sachiez que vous étiez fait pour être. Dieu le Père vous a fait pour vous aimer pour l'éternité, pour vous avoir comme son enfant. chérie. Et c'est ça que nous avons raté. Et c'est à cela que nous devons revenir. Donc, ça, c'est le but final. Maintenant, nous allons parler du chemin. Première chose que nous pouvons voir dans les paroles de notre Seigneur, c'est que il y a un seul chemin spécifique pour arriver ainsi au Père, comme votre Père réconcilié qui vous accueille pour toujours dans sa présence. Un seul chemin. Jésus dit, je suis le, pas un, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour être sûr, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ailleurs, nous lisons que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, avec la prétention d'être le Messie, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Et en prêchant l'évangile, les apôtres ont dit ceci, en Actes chapitre 4, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a, écoutez bien, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, donné de Dieu parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça alors, c'est pas moi qui dis cela, c'est le Fils de Dieu qui le dit, et c'est l'apôtre inspiré qui le dit. Nous vivons dans une société pluraliste, revendicatrice, qui pense qu'il mérite, qu'il, pour réclamer quelque chose de Dieu, vous ne pouvez rien réclamer. Dieu donne un chemin, il fait connaître ce chemin à qui il veut, c'est une grâce même d'avoir su, ce n'est pas un droit de savoir l'évangile, ce n'est pas un droit que l'évangile arrive à votre pays, ou à votre porte, ou à votre génération, c'est une pure grâce que vous n'avez jamais méritée. Au Vatican II, l'Église catholique a officialisé une hérésie qu'ils appellent, qu'on décrit par le terme « croyant anonyme en Jésus ». Je vous lis le document officiel de le Vatican II, une partie qui s'appelle Lumen Gentium. Je cite. Enfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, ou aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. En effet, ceux qui sont qu'il y ait de leur faute, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et de son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Sauf qu'il n'existe aucune personne pareille, selon la Bible. La parole dit que nul ne cherche Dieu. Le vrai Dieu, à moins que Dieu lui-même vienne par l'évangile de Christ changer son cœur. Je continue. Le nouveau catéchisme de l'Église catholique, je cite, catéchisme de 1991 ou 12, je cite. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et de son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, vous voyez, ils sont en train de citer l'autre document, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. L'épître de Paul aux Romains. Quiconque croit en lui ne sera pas confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc, puisque c'est quiconque invoque le nom du Seigneur qui sera sauvé, et pas d'autre, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et la réponse attendue par la question, c'est que c'est impossible. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? La réponse attendue, c'est ils ne croiront pas. Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Ils n'entendront pas sans prédicateur, sans quelqu'un qui dise. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il n'y en aura pas. Ainsi qu'il est écrit, je ne vais pas citer cette partie, mais le verset suivant dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. En d'autres termes, Paul dit, pas de salut sans la foi consciente en Jésus, une foi qui n'est pas possible sans avoir entendu l'Évangile. Un entendement, une écoute de l'Évangile qui n'est pas possible à moins que quelqu'un vienne en personne ou par un traité ou une Bible vous dise l'histoire de la crèche jusqu'à la croix. Troisième point. Ce chemin spécifique et seul pour parvenir au Père est un chemin que vous devez emprunter maintenant dans cette vie. Vous quittez Bourges. Bourges, c'est plus ou moins le centre de la France, n'est-ce pas? Si on met. Et vous prenez le chemin spécifique qui indique Marseille. Et vous restez sur ce chemin. Et vous conduisez 6 heures sur ce chemin et vous finissez votre voyage. Vous aboutissez. Vous ne pouvez pas être à Paris. Vous prenez un chemin qui n'est pas indiqué Paris et vous le suivez jusqu'au bout. La fin de votre parcours, ne pensez pas qu'au bout, vous allez aboutir à Paris. Si vous voulez être à Paris à la fin, il faut emprunter maintenant le chemin vers Paris. C'est vrai? Ok. Il y a des gens qui pensent vaguement dans leur tête, je vais être dans la maison du Père. Je vais être reçu par le Père en tant que son enfant. Mais ils ne sont pas sur le chemin qui mène au Père maintenant. Êtes-vous sur le chemin? Mais véritablement, ne pensez pas à moi, pensez entre vous et Dieu. Il vous donne ce chemin qui est Christ, qui s'offre à vous d'une certaine manière, que vous devez plier le genou devant Christ. Comme Seigneur et comme Sauveur. Et là, vous arrivez. Maintenant, comment est-ce que vous savez si vous êtes sur ce chemin? Parce que si vous êtes sur le chemin qui mène au Père, déjà maintenant, vous avez commencé à jouir d'une relation avec le Père, comme votre Père, et vous êtes son enfant. Et vous le savez. Vous me posez une autre question. Comment est-ce que je peux savoir si Dieu est connu par moi, non pas simplement comme un concept, mais comme une réalité, mon Dieu? Je vous dirai. Pour certains gens, ils croient, mais ils croient dans un concept. Et je peux vous dire comment vous pouvez le savoir. Un concept est quelque chose qui est dans votre tête. Ça veut dire c'est plus petit que vous. D'accord? Le concept du père est plus petit que vous. C'est un concept, vous le casez avec tout ce que vous pensez et tout ce que vous croyez, et ça ne vous bouscule pas. Ça ne bouscule rien. Vous restez le même. Parce qu'une chose plus petite que vous ne peut pas vous bousculer. Mais si jamais Dieu vient et il vous rencontre, et je ne parle pas, il vous, malheureusement, on peut frôler quelqu'un dans le magasin juste un moment, boum! Et ça me bouscule juste un moment, mais après, il n'y a plus rien. Donc, moi, je parle lorsque vous rencontrez Dieu et il reste là. Et vous êtes en contact avec lui désormais, je vous assure une chose, il est beaucoup plus grand que vous, et le signe que vous l'avez rencontré comme une réalité, c'est que ça vous bouscule complètement. Toutes vos croyances sont complètement tournées sens dessous dessus. Vous avez dit jusqu'ici, mais Dieu peut pas dire ça, et Dieu peut pas faire ça, et Dieu ne peut pas être comme ça, et quand il vient, il dit, repentez-vous, je suis comme ça. Il est beaucoup plus grand et vous réalisez que vos petites pensées qui essayent d'arranger un concept et dire non, le concept ne peut pas être comme ça, quand le vrai Dieu vient, c'est fini tout ça. C'est fini, c'est juste fini. Et si ça n'a pas été fini pour vous, vous ne l'avez pas rencontré. Dites ce que vous voulez. Maintenant, ça c'est la seule partie très ferme de mon sermon. Mais il faut que vous le sachiez. Le quatrième point. Ce chemin spécifique pour le Père, que le Père vous donne vers lui, n'est pas une méthode, ni une pratique, ni quelque chose à faire, mais le chemin qu'il vous donne est une personne. Jésus n'a pas dit, je vous montrerai le chemin, je vous dirai la vérité et je vous donnerai la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et c'est ça que nous voulons comprendre, parce que c'est incroyable ça. Dans les chemins, dans les religions que les hommes inventent, qui ne sont pas véritables, le Tao, le chemin, est une pratique. On est encore dans le concept. C'est quelque chose que moi je prends, je suis plus grand, moi je suis l'acteur, je prends ces trucs, je les fais, je les pratique, n'est-ce pas? Et la différence, c'est que le vrai chemin n'est pas quelque chose que vous prenez, les 8 vérités éternelles, les 5 piliers. Les ceci, les cela, des trucs qui sont plus petits que vous. C'est le Seigneur lui-même qui vient en tant que chemin et il vous prend. C'est pas vous qui prenez, c'est lui qui vous prend et il dit, donnez-vous à moi. Confiez-vous à moi, je m'en occupe. Je vous prends, je prends votre passé, je prends vos péchés, je prends le ciel, je prends l'enfer, je prends tout et je règle en ma personne sur une croix, je règle. Ton sort. C'est moi le chemin. Et si nous voulons savoir de manière très simple pourquoi est-ce que tu dis toi-même que tu es le chemin qui m'enlève les barrières vers le Père, qui m'amène dans une relation réconciliée avec le Père, comment est-ce que tu es toi-même dans ta personne le chemin? Jésus dit, regarde mes plaies. Je suis moi-même. Dans tout ce que j'ai vécu, toi, le chemin. Donc, ce n'est pas ta pratique, ce n'est pas tes mérites, ce n'est pas ton amour pour Dieu, ce n'est pas quelque chose en toi, envers Dieu, qui est le chemin. Pas du tout. C'est son amour pour toi, c'est son action, c'est son accomplissement, c'est sa croix, c'est sa résurrection, c'est lui qui fait. Et pour comprendre ça, c'est pas très difficile. Quand on dit, Un homme se noie dans une rivière et le chemin de sa délivrance, c'est une personne. Ça nous semble tellement logique. Parce que si on lui envoie comme moyen de secours un livre sur la natation, avec des bonnes pratiques, ça ne marchera jamais, n'est-ce pas? Mais si une personne, un maître nageur, saute, la personne lui-même est son salut, n'est-ce pas? C'est ça Jésus pour vous. Il dit, je suis moi-même celui qui fera. C'est pour cela que je vous ai fait entendre aujourd'hui dans le culte cette histoire d'Élisée qui ressuscite ce fils décédé. D'abord, il envoie devant lui son serviteur avec le bâton en espérant que le bâton va le ressusciter, que le chemin de la résurrection de la vie peut être un truc, une puissance se sépare de lui, mais non. Dieu dit non, 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 c'est pas la vérité, c'est pas ça que je veux communiquer aux gens. Ça va être ta personne. Couche-toi sur lui. Les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche. C'est ta vie qui sera sa vie. C'est la vie en toi qui va le ressusciter. En réalité, c'est pas la vie d'Élisée, c'est juste un symbole. C'est la vie de Christ. Mais on comprend l'image. Donc, pour terminer, le dernier point, c'est que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors ça, c'est une réponse à la question, quel est le chemin, Thomas dit. Et au lieu de parler du chemin, Jésus parle de trois choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y a des gens qui pensent que, bon, il a répondu à la question de Thomas sur le chemin, et puis il a ajouté deux autres trucs. Non. Jésus dit, est en train de dire, je suis le chemin au Père, parce que je suis en moi-même la vérité sur le Père et comment arriver à lui, et je suis la vie. Je suis en ma personne la jouissance de la vie avec le Père. Et c'est ça que je veux vous essayer de vous montrer. C'est clair que le chemin est son seul sujet parce que, écoutez bien toute la phrase, écoutez-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il part d'un chemin. Viens au Père. OK? Tout le long, je suis le chemin pour venir au Père. Je suis la vérité qui est le chemin par lequel vous venez au Père. Je suis la vie pour venir au Père. En d'autres termes, si vous voulez un chemin pour venir au Père, vous ne l'aurez pas si ce n'est pas un chemin de vérité. Si ce n'est pas quelque chose de vrai que vous comprenez et croyez, vous n'allez pas arriver. Et cette vérité que vous devez croire, vous le verrez seulement en Jésus crucifié, ressuscité. Et même chose pour la vie. Alors, on va les prendre une à la fois. Je vais juste vous montrer en terminant comment Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité, comment Jésus est le chemin parce qu'il est la vie. Premièrement, Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité. Mais non, pas la vérité sur n'importe quoi. Jésus est en train de parler de la vérité sur le Père et sur comment arriver à lui. Et Jésus est devenu cette vérité pour vous, pour que vous puissiez comprendre et répondre, parce que rappelez-vous que dans la Bible, le mot vérité n'est jamais un fait simplement qui est là, intellectuellement vu. Dans la Bible, le mot vérité signifie toujours quelque chose qui est réel et vrai et fiable et qui appelle à la confiance. D'accord? Parfois, le mot vérité est traduit fidélité. Parce que le Dieu qui est vrai est le Dieu à qui il faut se fier. D'accord? Alors, Jésus est devenu la vérité qu'il vous faut pour arriver au Père en venant comme un homme, en montrant exactement qui le Père est, et en mourant sur la croix, dans sa mort, quand il est là, regardez-le, agonisant, mourant pour vous, afin de vous amener au Père. Et là, vous voyez la vérité venue en plein jour. Quelle vérité? La vérité sur le Père et son cœur envers toi, parce que c'est le Père qui l'envoie. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque le Fils se donne sur la croix, on voit en lui, en sa personne, ah, maintenant je comprends le Père. Je comprends son amour pour moi. Je vois le Père en action, manifesté. D'abord, parce que Jésus est exactement comme le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Et deuxièmement, dans sa mort, nous voyons, nous touchons. Ce n'est pas une information au sujet du Père, au sujet de l'amour du Père. Nous avons contacté. L'amour du Père éternel pour nous, c'est devant nos yeux, c'est la vérité elle-même, c'est la réalité. C'est pas à nous y dire. J'ai l'amour du Père pour moi devant mes yeux, dans le concret, je le touche. Pour que je puisse me fier complètement. C'est une chose qui est tellement solide et réelle et pleine. En dehors de Jésus, on ne peut pas la voir comme ça. En lui seulement, je suis la vérité incarnée, manifestée, allant en public, sortie en public, de qui est Dieu dans sa grâce et dans son amour et de comment arriver à lui. Et ensuite, Jésus est pour vous le chemin vers le Père parce qu'il incarne la vie avec le Père qui est l'expérience du salut. Je m'explique. Qu'est-ce que la vie? Jésus dit, je suis la vie. C'est un de ces mots que nous prononçons, mais ça ne change jamais comprendre le vrai sens. Dans la Bible, il y a deux mots en grec pour vie dont Jésus utilise le mot zoé. Ce n'est pas le mot biologique, c'est le mot, la vie biologique, c'est la vie spirituelle. Jésus dit, je suis la vie. La vie n'est pas l'existence. Zoé n'est pas le fait d'exister. Il y a plein de gens qui existent, mais qui n'ont pas la vie. Ils sont morts spirituellement. D'accord? Donc, lorsque Jésus dit, je suis la vie, il ne veut pas dire, je suis la puissance d'existence, il est aussi. Mais la vie signifie exister en communion avec le Dieu qui est source, fontaine de tout bien véritable. Exister en contact avec lui, dans sa faveur, dans la jouissance de son amour et sa sagesse et tout ce qu'il est, ça c'est la vie. Vivre sans contact avec Dieu et toute la bénédiction qui ne peut découler de lui, c'est pas une vie. C'est exister, mais sans vivre. Mais lorsque vous êtes en contact avec Dieu dans son amour et sa grâce et sa sagesse et sa faveur, vraiment en contact avec lui, ça c'est vivre, selon la Bible. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que Jésus peut dire que sa personne est la vie? Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ce que je viens de dire. La vie, c'est vraiment vivre dans cette connaissance, cette relation qui devient une source de paix, de joie, de bénédiction. Comment est-ce que Jésus peut être ma vie si la vie, c'est vivre en communion avec Dieu? Je vous donne une petite illustration. Il y avait une fille qui était orpheline. Dans sa jeunesse, dans son enfance et sa jeunesse, elle a vécu de famille en famille. Ces merveilleuses familles qui accueillent, des familles d'accueil qui prennent des enfants pendant quelques années. Mais malheureusement, son expérience n'a pas été une des meilleures et elle n'a jamais été dans une famille où les parents de cette famille l'ont fait sentir que tu es notre enfant pendant que tu es là. Donc elle a vécu cette pauvre, et maintenant elle a 25 ans, elle a vécu toute une vie sans savoir du tout ce que c'est que être fille bien-aimée d'une maman ou d'un papa. Mais un jour, elle rencontre un garçon, elle est chrétienne en ce moment, le garçon aussi, mais lui, il vient d'une famille merveilleuse, une famille chrétienne où ça se passe comme ça le devait. Et les deux tombent amoureux, vous le voyez venir, n'est-ce pas? Et se marient. Cette famille, la famille du garçon, en fait, n'a jamais eu de fille. Et quelle bonne nouvelle pour les parents qui se disaient, ah, cette fille, elle est trop chouette. Voilà la fille que nous n'avons jamais eue, mais que nous avions toujours voulu avoir. Et donc, au fil des années, maintenant, elle est accueillie, mais vraiment, 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 comme la fille de ce papa et de cette maman. Enfin, jusqu'au point où, quand les gens rencontrent cette famille de deux générations, le papa et la maman, le fils et sa femme, les gens ne savent pas lequel est le vrai enfant des parents. Est-ce que c'est le bonhomme qui est le fils de ses deux parents ou est-ce que c'est les filles qui est la fille? Parce que tellement la relation est la même, vraiment l'amour paternel envers les deux, un amour maternel envers les deux, on ne sait pas qui est le vrai enfant de la famille. Alors, cette fille maintenant est en train de jouir d'une relation paternelle. Elle est venue à un père. Elle est dans sa présence, aimée, chérie, bénie. Elle vit cette vie d'une fille bien-aimée. Mais comment est-ce qu'elle a cette vie? Parce que c'est une vie, c'est pas juste exister, c'est une vie bénie. Ah, je vous dirai, c'est son mari qui est sa vie. C'est-à-dire, c'est lui qui a de nature, de manière innée, cette relation riche et bénie avec ses parents, aimée. Et quand il a épousé, il l'a amenée tout simplement dans la relation qu'il avait avec ses parents. Donc, Jésus est notre vie. Parce que lui qui, de manière innée, a depuis toujours, il ne peut qu'exister que dans la faveur du Père, que dans la communion avec le Père, un avec le Père, jouissant de tout ce qu'est le Père, et en nous sauvant, il vous amène à être un avec lui. Et donc, vous commencez à jouir de la même relation avec le Père que Jésus a. Je suis la vie. Je vous fais venir dans la relation vivante que j'ai avec le Père. Donc nous pouvons voir que la vie n'est pas une chose. On ne peut pas avoir cette vie en dehors de Jésus. C'est sa relation avec le Père qu'il nous donne. C'est sa place vis-à-vis du Père que nous prenons. Non pas que nous devenions divins, mais la Bible enseigne bel et bien que le salut est exactement cela. que nous sommes devenus fils en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, adoptés en Christ. Quelle est l'application de tout cela? La première application, c'est que vous voyez qu'il est simplement impossible d'avoir cette relation avec le Père, d'arriver à cet aboutissement en dehors de Jésus. Parce qu'il ne peut rien vous donner sauf que lui-même. Il est lui-même la vérité sur le Père. Il est lui-même la vie avec le Père que vous devez avoir. Et pour l'avoir, il faut que vous soyez à lui et que tout ce qui est à lui devient à vous. C'est très simple. C'est la personne et tout le salut ou pas la personne de Jésus et aucun salut. Que pensez-vous de Jésus? Est-il pour vous le chemin? La vérité sur le Père et le chemin vers le Père? Est-ce qu'il est la vie? Je termine. En 1 Jean chapitre 5, Jean nous dit ceci, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses, je vous les ai écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie. Vous connaissez le Père en tant que Père, vous qui croyez au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter. Dans le carnet numéro 48, normalement ce numéro, vous l'aurez dans le carnet.